Bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous vous portez bien là où vous êtes, en famille ou tout seul, ou avec votre animal de compagnie. En tout cas, comme disait notre cher président, que nous puissions revenir à l'essentiel. Bon, a priori pour lui, c'est la culture et l'éducation. Certes, c'est important, mais je pense que vous comme moi, on connaît un essentiel qui est vital et qui est beaucoup plus central. Et c'est un des sujets que je voudrais aborder maintenant qui est lié à cet essentiel que nous connaissons, la personne de Jésus, la personne du Père et de l'Esprit-Saint, et bien la communion. Alors dans nos milieux protestants, on va parler de la scène, dans le milieu catholique, l'Eucharistie, et puis il y en a qui appelleront ça la Sainte Communion, j'appellerai ça la communion, cette communion particulière avec un grand C. Pourquoi j'ai envie d'aborder ce sujet? D'abord parce que c'est vraiment une pratique dans notre famille, en tout cas c'est devenu depuis un certain temps maintenant une vraie pratique pour nous. Alors pas une pratique religieuse, c'est ce qu'on va voir ensemble, mais vraiment une opportunité bénie, si particulière, d'engager notre relation avec le Christ. Donc c'est aussi pour ça, avec ce qu'on traverse tous aujourd'hui, là où nous sommes, en France ou dans d'autres pays. Et ben, il me semble que ça peut être essentiel pour nous de retrouver les richesses, les promesses, la bénédiction de ce qu'est la communion pour nous. Alors, l'une des choses, je pense, la plus évidente par rapport à ce sujet, c'est qu'elle a tellement besoin d'être affranchie, libérée, vraiment d'un poids de religion, d'un poids religieux, d'une tradition parfois pas vide de sens, mais vide d'expérience, vide du relationnel. Vide de sa réalité, de sa substance spirituelle même parfois. Et c'est ce qu'on va aborder ensemble à travers différents points qui, je l'espère, va peut-être mettre en perspective pour vous, va mettre en lumière des choses que moi non plus, j'avais pas découvert. D'une, en lien maintenant avec mes propres recherches, et puis de deux, avec, je crois que j'en ai parlé dans l'avant-dernière vidéo, la dernière vidéo du ministère de Joseph Prince. Voilà, c'est un des sujets chez ce ministère que j'apprécie énormément et à la fin, je vous conseillerais un de ses livres qui, je pense, est vraiment, vraiment une bénédiction. Je pense que Dieu particulièrement l'a visité et lui a apporté des vraies révélations sur ce sujet-là. En tout cas, c'est ce que je crois personnellement. Bref, ensemble, on va, si vous le voulez bien, eh ben survoler ces différentes perspectives qui, je l'espère, va nous affranchir de plus en plus vraiment d'un poids religieux, d'une sobriété, j'allais dire, religieuse aussi, qui n'a rien à voir avec la joie céleste de ce moment-là. Donc voilà, peut-être que ce sera en une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, ça va dépendre du temps que je vais mettre. Il y en a qui ont été encourageants en me disant que c'était jamais trop long. Il fallait peut-être pas me dire ça. Donc, on y va. Donc, en premier, si je veux partager cette vidéo, c'est parce que pour nous, c'est devenu une vraie pratique maintenant depuis un certain temps. Et que on a connu et j'ai expérimenté déjà des vrais bénéfices de cette communion-là. Plus longtemps encore dans mon histoire, dans mon passé, mais là encore plus récemment. Et en particulier par rapport à la guérison. Donc c'est aussi certainement pour ça que c'est fervent dans mon cœur, c'est brûlant, surtout évidemment avec ce qu'on traverse tous aujourd'hui, avec ce fameux virus. La chose que j'aimerais aborder ensemble en premier concernant ce sujet, au-delà de s'affranchir ensemble au fur et à mesure de tout poids religieux, de toute tradition qui nous pèse et qui nous coupe, qui nous prive en fait de la grâce, de la richesse spirituelle de ce moment, de ce rendez-vous divin avec Jésus. C'est d'abord notre approche qu'on a d'un symbole. Souvent, on pourrait, avoir tendance à séparer le symbole de la réalité spirituelle. Et l'une des choses qu'il faut comprendre et assimiler, c'est que Dieu ne sépare pas le symbole de la réalité spirituelle. Nous les hommes, on a tendance à le faire, on dénigre, plus on voit, on réduit, on admet qu'une compréhension, une définition, voire allégorique, un symbole, et on le déconnecte de la réalité spirituelle. En tout cas, on estime qu'elle tend vers la réalité spirituelle, mais qu'elle n'est pas la réalité spirituelle. Et ce que j'ai envie d'insister là, maintenant pour commencer, c'est que Dieu ne voit pas de différence. On peut le voir que ce soit à travers le livre de l'Apocalypse, c'est je pense le livre qu'on a estimé le plus symbolique, le plus poétique, le plus allégorique selon certains, et parfois en allant dans la dérive, de déconnecter ces symboles de la réalité céleste, d'isoler ces symboles d'une réalité céleste, d'une réalité spirituelle d'existence, d'un trône de Jésus-Christ qui peut se révéler physiquement comme l'agneau immolé, comme les sept esprits devant le trône, comme les 24 anciens, comme les quatre créatures vivantes, etc., etc. Et pour revenir à la communion, c'est exactement la même chose. Quand on s'approche de la communion, on va voir ensemble, quand on prend le pain, ou le pain azyme, ou ce que vous avez en tout cas, et le fruit de la vigne, le jus de raisin, ou du vin, ou de l'eau, si vous avez que ça, qu'on ne les approche pas simplement comme des symboles qui peuvent être déconnectés de la réalité spirituelle, mais qu'on puisse s'approcher en ayant cela dans les mains, comme aussi vrai qu'on détient ça dans notre main, cet élément du pain et la coupe de bénédiction, eh bien pour Dieu, ça n'est pas déconnecté et séparé de la réalité spirituelle que ça soutient, que ça manifeste. On va voir ça un petit peu plus tard. J'aimerais, je ne suis pas très bon publicité, mais vraiment, je vous le dis ça, pas parce que on a besoin d'argent, mais parce que vraiment ce livre, La Cité, que Claire, mon épouse, a écrit, je l'ai vu comment ça s'est passé, comment c'est tombé du ciel, le téléchargement des révélations de ce livre-là, et c'est l'un des sujets qu'elle aborde dans ce livre-là, le fait que Dieu ne déconnecte pas, ne sépare pas le symbole de la réalité spirituelle, entre autres. Donc je vous le conseille vivement, parce que c'est sûr que vous ne serez pas déçus. Des expériences spirituelles vous attendent, des révélations de l'amour et de la simplicité de Jésus, et de la simplicité du relationnel et de l'expérience surnaturelle qu'on peut vivre avec lui en toute simplicité. Et l'Église a besoin de retrouver ça, cette expérience céleste, surnaturelle, dans la toute simplicité de Jésus-Christ. Bref, c'était pas mon sujet. Donc le symbole, pas déconnecté de la réalité spirituelle, c'est important lorsqu'on s'approche de la communion. La deuxième chose que j'aimerais voir avec vous, alors celle-ci, elle vient pas de moi, elle est de Joseph Prince, et je la trouve tellement, tellement bonne. Il va dire que, aussi vrai que par un seul acte de manger au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le péché est entré dans la création, la mort ensuite, et la maladie aussi comme conséquence. Eh bien, aussi vrai aujourd'hui que par un seul acte de manger à travers la communion, Dieu renverse cette malédiction. Alors certes, en Jésus-Christ, une fois pour tout, à travers son sacrifice à la croix, il n'y a plus de 2000 ans maintenant, il a rendu caduc le péché, la maladie et la mort. Vous rappelez hein, de Romains 8, entre autres, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a rendus libres, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort, pour ne citer que ce verset-là. Dieu, en Christ, a annulé la puissance, a rendu caduque la puissance du péché et de la mort et de ses conséquences. Et la communion n'est pas comme si nous accomplissions cet acte unique dans toute l'histoire qui a été accompli par Jésus-Christ, mais nous rejoignons, nous participons d'une manière complémentaire, particulière, par rapport à une relation de cœur à cœur, une relation d'intériorité avec le Christ, avec le Dieu vivant, à travers la communion. On le verra ensuite, il y a une dimension de proclamation avec le son des éclairs du ciel. On verra ça tout à l'heure, avec les trompettes et les chauffards célestes. J'imagine qu'on n'a peut-être pas encore tout découvert aujourd'hui, le peuple de Dieu, concernant cette révélation de la communion, mais ce qui est certain, c'est que c'est une passerelle toute particulière, toute spécifique pour le corps de Christ, de communier d'une manière toute particulière et profonde à ce qui a été accompli une fois pour toutes dans l'histoire grâce à Jésus-Christ. D'accord ? Donc, tellement chouette cette citation de Joseph Prince, que par un seul acte, l'homme a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que le péché, avec toutes ses conséquences, est rentré dans la création et a altéré complètement la création du Dieu vivant, aussi vrai, nous-mêmes, par un seul acte de manger à travers la communion, nous participons à ce que Dieu a rendu caduque et annulé une fois pour toutes à travers son Fils. Ça, j'espère que ça fait déclic en vous, parce que quand j'ai entendu la première fois ça, j'ai dit c'est tellement bon, c'est tellement beau. Et là encore, on pourrait y voir simplement qu'un symbole, et pour autant, comme je vous disais, Dieu ne sépare pas le symbole de la réalité spirituelle qui est cachée, qui est voilée et qui est soutenue, qui est connectée directement à ce symbole. La deuxième chose, la troisième chose plutôt, que j'aimerais aborder avec vous, c'est que cette communion, hein, cette scène, elle est là en particulier pour le bénéfice de notre corps, de notre santé, de notre guérison. Et le Père a défini, a instauré lui-même cette démarche de communion, cette approche à travers la communion du Christ. Pour le bénéfice de nos corps, pour le bénéfice de notre santé, on va le voir tout de suite après, à travers la relation, avec le corps de Jésus et le sang versé pour nous. C'est comme si le Père avait défini une fois pour toutes dans l'éternité que la communion serait un des symboles qui marquera l'histoire de l'humanité dans sa relation avec Dieu pour qu'il se rappelle éternellement, en tout cas d'âge en âge, jusqu'à ce que ça se termine, de la perfection du sacrifice de Jésus-Christ et d'entamer cette relation avec lui. Je trouve que ça fait tellement suite et tellement sens aux deux dernières vidéos que j'avais faites sur le fait de venir. La communion, c'est la première chose, c'est venir. C'est venir à lui. C'est d'abord une histoire de relation plus qu'une histoire de tradition, vraiment. Donc on va voir ensemble, si vous voulez bien suivre avec moi, le chapitre 11 de 1 Corinthiens, du verset 26 au verset 30. Et Paul, inspiré par l'Esprit, écrira « Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » On verra ensemble. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est puissant ce que Paul dit. « C'est pourquoi quiconque mangera de ce pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui en mange et qui en boit indignement mange et boit sa condamnation ou son jugement, on verra ensemble les termes en grec, ne discernant point le corps du Seigneur. C'est pour cela ou c'est pour cette raison qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et un grand nombre sont morts ou sont endormis. Dans une première lecture de ce verset-là, et peut-être souvent ce qu'on a entendu, et sans reproche particulier, mais souvent comme on a pu l'entendre aujourd'hui dans nos églises, c'est comme si on recevait tout de suite un poids religieux et une sorte même de crainte de s'approcher et de participer à cette communion. Alors que ça devrait être tout l'inverse quand on peut un peu plus disséquer ce que Paul est en train de dire et surtout le replacer dans le contexte. Rappelez-vous, d'abord dans 1 Corinthiens, dans le chapitre 10, Paul est en train de nous rappeler que même les patriarches avaient participé au breuvage spirituel et à la nourriture spirituelle qui était Christ, le rocher qui les a suivis. Et la manne, donc relisez déjà ce premier chapitre 10, Paul est déjà en train d'introduire que même les patriarches avaient pu participer à une nourriture spirituelle et un breuvage spirituel, et qui pourtant sont morts dans le désert. À combien plus forte raison nous qui sommes au bénéfice de la nourriture éternelle et du breuvage éternel, avons à vaincre la mort dans nos corps. Mais ça, on le verra dans le dernier point concernant la corruptibilité et l'immortalité. Bref, pour revenir à ce passage que je suis en train de lire dans 1 Corinthiens chapitre 11, du verset 26 au verset 30, il y a une chose qui est tellement importante, c'est que généralement, on a pu recevoir ça comme peut-être parfois une disposition de crainte ou un argument de crainte. En assimilant Paul qui dit qu'on pourrait prendre indignement la coupe et le pain à travers un péché caché, ou un péché répétitif, ou un péché volontaire, ou je ne sais quoi d'autre. Déjà, il y a une chose qui est très importante quand on lit, que ce soit d'ailleurs dans l'Ancien Testament et que ce soit dans le Nouveau Testament. Lisons ce que les apôtres nous écrivent, ou ce qui est les prophètes qui ont été inspirés par l'Esprit de Dieu, à la lumière de ce qui a été accompli par Jésus-Christ. Vous vous rappelez, c'était pas prévu que j'en parle, mais quand on voit Jésus qui accompagne les disciples d'Emmaüs, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qu'il aborde avec eux? Il aborde à travers tout le long des Écritures ce qui les concernait lui-même. Le filtre unique, essentiel, dont nous avons besoin de restaurer aujourd'hui dans l'Église pour lire nos Bibles, pour lire ces Écritures, pour lire les pages, pour lire ces passages qui peuvent amener un poids religieux, c'est à travers le filtre de ce qui a été accompli parfaitement par Jésus-Christ. Et si on comprend et on réalise qu'est-ce qu'est la Nouvelle Alliance et combien est basée sur des meilleures promesses et par le sang de l'agneau qui a fait serment avec lui-même, Dieu a fait serment avec le sang de son Fils. Dieu a fait serment non pas avec les hommes, mais avec son Fils. Dieu a fait serment avec lui-même afin, entre guillemets, d'être affranchi une fois pour toutes des actes ou de non-actes des hommes, de l'obéissance ou de la non-obéissance des hommes, parce qu'il a prêté serment avec lui-même. Quoi qu'on fasse, en bien ou en mal, dépendant de lui ou indépendant de lui, nous sommes constamment au bénéfice de la nouvelle alliance. Nous sommes constamment qualifiés pour avoir l'héritage des saints dans la lumière. Et ça, c'est important comme sujet, c'est important comme raison à donner dans ce passage-là, parce que relisons ce passage avec le sacrifice parfait de Jésus-Christ et qui il est en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. À travers la nouvelle alliance, personne qui a reçu Christ comme celui qui l'a sauvé de son péché, qui l'a sauvé d'un endroit éternel de condamnation et de séparation de cœur avec le Dieu vivant. Si celui-ci a fait le Christ son sauveur, celui qui lui apporte la vie, qui lui donne la vie en abondance, il ne peut plus être exclu de ce qui concerne la grâce de Jésus-Christ, et en particulier la communion. Donc si vous vous êtes senti exclu ou rejeté ou effrayé par cette dimension de condamnation ou de jugement qui serait attiré sur vous, si vous vous approchez avec ce que vous avez estimé être un péché volontaire, répétitif, caché, je ne sais, sachez une chose, c'est que cela ne pourrait jamais vous disqualifier. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas une grâce à un petit prix, hein, parce qu'il y en a un qui l'a prié au prix de son sang, qu'il a payé au prix de ses meurtrissures, qu'il a payé à un prix qu'on n'imaginera jamais, dont on a besoin d'être complètement renversé devant l'ampleur éternelle de cette grâce indescriptible. Donc ce prix qui a été payé est indescriptible. Et il nous a été donné de ne pas le payer. On peut recevoir, et on est appelé à recevoir gratuitement. Pour revenir à ce passage, pardon. Donc relisez ce passage déjà à la lumière qu'à travers la nouvelle alliance, vous êtes au bénéfice constamment, continuellement de ce que le sang de Jésus-Christ vous a apporté, de cette nouvelle alliance. Donc ce passage où Paul est en train de parler n'est pas en train de définir, n'est pas en train de pointer du doigt si vous aviez des péchés cachés, alors vous êtes en train de boire indignement cette coupe et ce pain. Non, Paul, si vous revenez dans le contexte de ce chapitre-là, il était en train de remettre en place ses chers frères et sœurs qui venaient dans les maisons juste pour se goinfrer, alors que peut-être son frère était en train de manquer et peut-être même avoir la dalle, excusez-moi, juste à côté de lui. Et Paul va dire, mais vous n'aviez pas des maisons pour manger avant? Parce que là, Paul voulait signifier l'importance, la profondeur, même si cela peut être vécu en toute simplicité, mais sans dénigrer la profondeur. Et quand je dis le sacré, c'est dans le sens, dans la substance spirituelle que cela représente. Le sacré de ce moment de partager le pain et le vin en tant que communion. Pas simplement partager le pain et puis on se fait une bonne bouffe avec une rillette, vous m'excusez l'expression. Mais c'est un moment particulier où dans la toute simplicité et la joie d'être entre frères et sœurs, dans la joie d'être déjà dans le royaume de Dieu quand on verra ensemble par la suite, de discerner déjà le sacré du moment, la substance spirituelle et céleste qu'on est en train de partager maintenant et le bénéfice que Jésus-Christ nous a apporté. Donc, pour revenir encore au passage, Paul n'est pas en train de nous exclure à cause de péchés cachés dans notre vie. Nous voyons qu'au verset 29, donc 1 Corinthiens 11, verset 29, « Car celui qui en boit et qui en mange, pardon, inversement, mange et boit son jugement ou sa condamnation, ne discernant point le corps du Seigneur. » Ou dans d'autres versions, c'est « Car il ne discerne point le corps du Seigneur. » la première raison, voire la seule raison, qui nous exclut, qui engendre de recevoir cette coupe et ce pain indignement, c'est le fait de ne point discerner le corps de Christ, de ne point discerner ce qu'il a accompli par ses meurtrissures pour vous, de ne point discerner qu'en Ésaïe 53, 4, il avait déjà été prophétisé, sûrement il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs, et nous, nous estimions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Ésaïe 53, 5. Mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix, ou qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Donc, rappelez-vous que ne point discerner le corps de Christ, c'est ne point percevoir ce qui a été accompli en son corps pour vous. Le mot discerner en grec, c'est diakrino. Il est composé de deux particules. Dia, qui veut dire au travers, de long en large, d'une certaine manière, dans sa longitude, dans sa profondeur. Et krino, qui veut dire séparer, discerner, choisir même. Donc lorsque Paul utilise diakrino, il est en train de dire, mais si vous ne discernez point, si vous ne séparez pas, si vous ne percevez pas en profondeur, dans toute sa longitude, qu'est-ce que le corps de Christ pour vous aujourd'hui? C'est cela, d'abord, qui vous fait prendre ce temps indignement. Indignement porte la notion de ne pas réaliser, de ne pas percevoir, encore comme je le dis, la valeur toute particulière de ce qu'est ce repas, la valeur sacrée de ce qu'est ce repas, mais en faire un repas commun, un repas sans valeur particulière, sans réaliser le bénéfice et le prix qui a été payé par notre Sauveur pour qu'on en soit au bénéfice aujourd'hui. Donc, si on peut être aujourd'hui relâcher la pression un peu et ne pas se sentir exclure à cause d'un péché dont on n'arrive pas encore à se défaire, d'un péché qu'on cache à notre famille ou à autrui parce qu'on se sent tellement coupable qu'on n'arrive pas à aller au-delà pour l'instant, mais à combien plus forte raison Jésus ne va pas vous exclure de ce temps, mais au contraire, il va continuer à dire « mais viens ». Viens et bénéficie de cette communion, de ce partage tout particulier avec moi. Et là, je serai celui qui peut faire des miracles en toi. Là, je suis celui qui peut t'affranchir d'une manière toute particulière de ce péché. Là, je peux être celui qui va libérer un flot de vérité en toi et avec l'assurance et la grâce pour le mettre à nu devant tes proches. Dans l'assurance et la confiance que tu ne seras pas jugé, que tu ne seras pas rejeté par ta famille ou par ta conjointe ou ton conjoint ou je ne sais quoi d'autre. Donc, au contraire, que Jésus ne va pas nous rejeter parce qu'on serait encore en proie avec un péché caché ou non caché, mais répétitif. Non, Jésus est constamment celui qui dit « Viens, viens, viens et bois, viens et mange. » Donc, ce qui peut nous exclure de ce temps et où on reste sous une condamnation, c'est celle de ne pas discerner en longitude, en profondeur, le corps de Christ et ce qu'il a supporté. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir The Passion, le film de Mel Gibson, mais lorsqu'il y a cette scène où on voit Jésus avec un corps devenu complètement informe, un visage quasiment informe, tellement les lacérations ont pénétré son corps et arraché la peau de son dos. Il est raconté dans la description des mots qu'il pouvait donner sur les victimes, sur les coupables. Que la peau pouvait tellement être lacérée, tellement arrachée par les fouets équipés de clous, qu'on pouvait voir les organes à l'intérieur de leur corps. C'est pour vous dire la violence, pour vous dire l'horreur de ce que ça pouvait représenter. Je vous encourage à revoir ce passage, vraiment de ce film, de The Passion, de Mel Gibson. Normalement, c'est des passages que je suis incapable de regarder, c'est trop pour moi, c'est... Et j'ai senti vraiment l'Esprit de Dieu, c'est pas comme une obligation ou comme une expression de maturité, ça n'a rien à voir, mais en tout cas pour moi personnellement, j'ai senti l'Esprit de Dieu de me dire de pas baisser le regard et de regarder. Et c'était insoutenable. Quand j'ai regardé cette scène-là, c'était insoutenable à l'intérieur. C'est comme si ça avait pété tout mon rationalisme qui pouvait encore rester, toute logique qui pouvait rester devant un amour si incompréhensible, devant un acte juste de grâce, de faveur et d'un amour si débordant, si impondant. pour son peuple. Et je vous encourage vraiment à pouvoir prendre ce temps-là. Et si vous le sentez, à ne pas baisser le regard, mais à pouvoir, j'allais presque dire contempler, mais vous comprenez, mais à regarder ce que lui a dû supporter pour vous. Non pas que le Père l'a obligé, mais que le Fils, dans sa joie, la joie qui était placée devant, vous, devant lui, hein, vous vous rappelez dans Hébreux, il a subi, il a supporté ces meurtrissures. Il les a même dénigrées, tellement la joie pour son peuple, la joie pour ses enfants qui sont bénéfices de ce qu'il a fait, était omniprésent dans ses pensées, dans son cœur. Donc, pour revenir, pardon, au sujet, ce diacrino, le fait de discerner le corps de Christ, c'est comprendre la portée de ce qu'il a accompli pour nous déjà à travers ses meurtrissures. 1 Pierre 2,24, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc la communion, je vois 26 minutes, je vais arrêter pour la première partie de la vidéo, on ira ensuite plus loin ensemble sur la dimension du royaume de Dieu où on prend cette communion, la notion de la régularité de cette communion à travers l'exemple des apôtres, la dimension du banquet qu'on est appelé à rejoindre à travers la communion. En tout cas, je l'espère qu'à travers au moins cette vidéo, vous commencez juste à avoir un éclat de lumière sur l'aspect tellement non irreligieux, j'allais dire non religieux, de la communion, non sobre même de la communion. Cette communion, le temps, l'opportunité de rejoindre ce qui a été accompli à travers le corps de Christ et ce qui a été accompli à travers son sang qui a été répandu pour nous, pour sceller une fois pour toutes la nouvelle alliance. Hein? La coupe de bénédiction, elle porte bien son nom, comme Paul dira, la coupe de bénédiction, la coupe de son sang qui nous assure les bénédictions sur notre vie, parce qu'on a reçu une fois pour toutes le don de la justice. Vous vous rappelez de Romains 5, si par un seul homme l'enfance, le péché a régné, à combien plus forte raison ceux qui ont reçu la surabondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils par Jésus-Christ. Donc, pour conclure cette première vidéo, allez, je vais jusqu'à 30 minutes et puis après on stoppe. Important de diacrino, de percevoir en longitude, de percevoir dans sa profondeur ce que représente le corps de Christ, ce que subit Jésus en son corps, ce qu'il a porté sur lui à ce moment-là, sur chaque type, chaque source, chaque souche, j'allais dire même, de maladies, d'infirmités qui viennent nous surprendre aussi dans notre vie. De la même manière, lui, le dos tourné au coup de fouet, à chaque coup de fouet, la surprise venant du coup d'une maladie qui frappait et une autre maladie qui frappait, sans prévenir sur son dos, sans que lui-même Jésus puisse voir quand le coup allait arriver. De la même manière, il a participé aujourd'hui à quand la maladie et l'infirmité et la souffrance viennent frapper à la porte de notre maison, viennent frapper à la porte de notre corps où la plupart du temps, si ce n'est pas tout le temps, on est pris par surprise. On est pris derrière le dos. On ne voit pas les choses arriver. Et boum, ça vient frapper sans prévenir. De la même manière, notre Seigneur qui avait le dos tourné à ses bourreaux a participé à la surprise. À la surprise de chaque coup de fouet sur son dos. Allez, il reste une minute. Par rapport à la régularité, on va prendre deux versets ensemble, Actes 2,46, Actes 2,42, et puis un troisième, Actes 20,7. Le premier, Actes 2,46, « Et tous les jours, ils persévéraient tous d'un accord dans le temple, et rompant le pain de maison en maison, ils prenaient le repas avec joie et avec simplicité de cœur. » Actes 2,42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Donc déjà, on voit que même à l'époque de l'Église première, à l'époque de cette Église naissante, quotidiennement, tous les jours, il persévérait en rompant le pain de maison en maison. La communion était certainement un acte de plaisir, un acte d'obéissance, un acte de proclamation et un acte de provision et de santé surnaturelle, même pour ses premiers disciples. Acte 20:7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea sans discours jusqu'à minuit. Si on prend le temps de lire ce passage-là, Paul était là. Vous vous rendez compte? L'apôtre, avec le package de toutes ses révélations, de toute la sagesse, de tous les enseignements qui apporte la joie et l'édification à ses frères et sœurs, était là. Et les disciples se réunissaient en premier, pas pour venir entendre Paul. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Pour rompre le pain. Ces disciples venaient se réunir pour rompre le pain. Imaginez, vous vous projetez. Vous avez dans votre ville ou dans votre petit coin un apôtre vraiment de renommée avec des enseignements et des révélations qui viennent faire tressaillir votre cœur de la joie du Seigneur Jésus, de l'édification dans votre stature de Christ. Hein? Et ce gars-là arrive. Est-ce que notre premier réflexe, ce serait de se réunir, non pas pour l'écouter, mais pour rompre le pain, pour participer à la communion ensemble? Je ne suis pas sûr. Donc même cette dimension de régularité a besoin d'être restaurée pour nos vies. Peut-être aussi qu'il y avait une dimension religieuse qui nous empêchait de le voir de cette manière-là avec la régularité, en se disant que c'est tellement solennel et tellement sacré qu'il ne faut pas le prendre trop de fois. Alors qu'au contraire, même les disciples de la première église avaient compris la centralité, la régularité de cette communion, de ce partage d'une manière toute particulière, cette communion d'une manière toute particulière au corps et au sang de Jésus-Christ. De ma propre expérience, c'est pas rare que je le prenne 2 à 3 fois minimum par jour. Alors peut-être on n'a pas tous la possibilité de le faire comme ça, mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas une seule fois où je la prends dans une dimension magique, dans une dimension rituelle, dans une dimension religieuse. À chaque fois, c'est l'opportunité d'une relation avec Jésus-Christ. Les yeux de mon cœur s'ouvrent, de ce que mon cœur tressaille, de voir encore d'une manière différente mon Sauveur. De ce que c'est l'opportunité pour moi de revenir là où je m'étais arrêté la dernière fois dans ma communion avec lui, dans ma communion, dans le partage du pain et du vin avec lui. C'est l'opportunité de voir le flot de sagesse et de révélation qui viennent illuminer notre imagination pour voir des choses qui sont ancrées et marquées dans le cœur. C'est l'opportunité pour moi, 2 fois de suite, en peu de temps, de pouvoir vivre une guérison, mais quasi spontané, où le soir en me couchant, les courbatures étaient là, le nez commençait à couler, la gorge était prise. Et généralement, je connais mon corps quand il fonctionne. Quand c'est comme ça, je suis à peu près sûr que le lendemain, comme je vais me réveiller, ça ne va pas être bon et je ne vais pas bien dormir la nuit. Juste avant de me coucher, je prends la communion une fois, dans cette relation avec le Christ, en m'approchant de lui, en le remerciant pour son corps brisé, son corps jugé pour moi, afin que je sois en complète santé, en parfaite santé, le châtiment qui est tombé sur lui, qu'il puisse me donner la paix, le shalom. Déjà, je me couche à cet endroit-là, je commence à m'endormir, et je dois me lever à 3h ou 4h du matin, et là, je me sens beaucoup mieux. J'ai plus mal à la gorge, il me reste quelques courbatures. Je prends le courage de me lever, juste pour prendre une dernière fois la communion, juste en rompant le pain. Le matin, je me lève, j'avais plus rien du tout. Une deuxième fois, je crois que c'était 2 ou 3 semaines après, de la même manière, j'étais au téléphone avec un ami, je me rappelle bien, on raccroche, il était 23h30, ce qui est pour mon habitude, parce que j'aime pas le téléphone à la base. Et courbature, mal au crâne, la gorge qui me faisait mal, et je me sentais pas bien. Et mon épouse venait d'être malade avec les enfants dans la semaine juste avant, et voilà, on est tous là où on en est, et je m'étais fait comme raisonnement, bon ben voilà, c'est mon tour. Et puis, je me suis dit non. Et j'ai pris la communion encore avant de me coucher. Et je l'ai pris sans que ça change quelque chose, mais en remerciant, en étant content de cette relation encore avec lui. Le lendemain matin, je me suis levé. Déjà, j'ai très bien dormi. Le lendemain matin, quand je me suis levé, j'avais plus rien du tout. Plus rien du tout. Donc, ça peut paraître des petites choses, et d'une certaine manière, oui. Mais pour moi, ça a son importance. Ça a son importance. Parce que combien vous savez, déjà, mon épouse appréhende le fait que son mari soit malade. Parce que je ne sais pas si vous, en tant qu'homme, c'est la même chose, mais je me plains souvent quand je suis malade. Et donc, d'avoir un mari qui continue d'être en bonne forme, en bonne santé, eh ben, je crois que pour les épouses, c'est important. Sauf si vous n'êtes pas du style à vous plaindre, mais ça, c'est mon cas, moi. Donc, bref, alléluia, merci Jésus. Et je ne vous parle pas de ce que ça peut manifester, même pour Claire, même si encore aujourd'hui, on continue à se positionner, à se reposer en lui, dans l'héritage de sa guérison déjà pour ses oreilles. Ça, c'est clair et net. Mais déjà, il y a vraiment un flot de sagesse et un flot de révélation qu'elle a pu expérimenter plusieurs fois sur des choses qu'elle a écrites, où moi-même, j'en étais au bénéfice. Et je sais qu'elle-même en témoigne de ce qu'elle est. Elle est surprise et elle sait que c'est lié à la communion, même par rapport à d'autres sujet où elle peut être en combat, que je ne vais pas parler à sa place, mais lié à des réflexes de pensée ou de raisonnement, même là, elle voit une liberté qu'elle n'avait pas avant, quoi. Et depuis qu'on prend régulièrement ensemble la communion. Je vous parlerai aussi de mon fils, notre aîné, Laël, qui, ensemble, on a voulu vraiment la prendre avec nous. J'ai voulu vraiment discerner chez lui si c'était juste léger ou. Mais il y avait vraiment un cœur, quoi, parce qu'il y a une démarche aussi qui fait avec Jésus. Mais, et en le prenant avec lui, je lui ai demandé de me demander, je lui ai demandé de me dire ce qu'il voyait. Lorsqu'il fermait les yeux, quoi. Et il y a des choses qu'il m'a décrites dont j'avais jamais parlé avec lui, dont je voudrais parler après dans les vidéos avec vous, où je savais que c'était le Saint-Esprit qui avait éclairé les yeux de son cœur pour voir ça, mais des choses. Alléluia, parce que je voudrais en parler dans la prochaine vidéo. Donc, vraiment, qu'on soit un enfant, et comme Jésus va dire, hein, d'approcher le royaume de Dieu comme des enfants. Les enfants avec un cœur qui s'approche de Jésus. Je vous assure que dans la communion, là elle va bientôt, enfin à 9 ans, je vous assure que même à cet âge-là, ils peuvent vivre des choses vraiment incroyables, ne serait-ce qu'à travers la communion, à travers le fait de discerner ce que Jésus a accompli pour vous, pour nous, son corps et son sang. Voilà, 36 minutes. Explosez le temps. Soyez béni en lui. Et pour le si peu qu'on a abordé ensemble, il y aura une deuxième et certainement une troisième vidéo. Je vous encourage, commencez la pratique de prendre la communion en toute simplicité, sans rester dans la position de foi que vous avez reçu le don de la justice une fois pour toutes. Comme vous avez reçu le don de Christ éternellement, vous avez reçu le don de sa justice aussi. Comme Paul va le dire, hein, je vous l'ai dit ensemble, comme vous avez reçu le Christ, continuez de marcher en lui. Donc, recevez abondamment ce qu'il a accompli pour vous dans vos corps, en particulier avec ce virus. Si vous commencez à avoir des premiers symptômes, courez à la communion. Venez entamer vers celui qui vous dit « Viens, viens mon fils, viens mon enfant, viens ma fille. » Et partagez avec joie, avec simplicité et avec reconnaissance, avec révélation, cette relation dans le royaume céleste, du pain de son corps qui a été brisé pour nous, du pain spirituel qu'il est pour nous, du pain céleste qui vient des cieux. Et de son sang qui coule dans nos veines. Soyez bénis les amis, et bien à très bientôt.